Bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et aujourd'hui, c'est Frédéric Gournay, l'auteur de Métaphysique du rock, qui va présenter l'invité et l'émission. À toi, Frédéric.
Merci, Yves. Oui, aujourd'hui, nous recevons Marc Dufaux, cinéaste, écrivain, auteur, qui est déjà venu dans cette émission. Il était venu pour un livre qui s'appelle Close-up Daniel Darc, je me rappelle. On avait déjà une émission d'une heure ensemble. Et là, aujourd'hui, Marc vient pour un bouquin qu'il vient de sortir sur David Bowie, qui s'appelle Ashes to Ashes, aux éditions du Boulon. Bonjour, Marc.
Bonjour.
Donc, tu viens de sortir ce livre, aux éditions du Boulon, comme je viens de le dire, sur David Bowie. Alors, est-ce que c'est une commande? Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est toi qui l'as proposé à l'éditeur ou à l'éditeur est venu te chercher? Parce que c'est une collection, en fait, qui existe.
Ouais. C'est les deux. Voilà. C'est les deux, c'est-à-dire que... Xavier, qui a créé l'édition Le Boulon, a monté donc cette collection qui est un single, un livre. Et donc il a proposé aux gens qui voulaient écrire dedans de donner des idées, etc. Et moi, là, j'avais envie de faire un livre sur Ashes to Ashes de Bowie. Donc voilà, ça s'est fait comme ça.
D'accord. Et pourquoi ce morceau en particulier plutôt qu'un autre? Parce qu'il y a, je crois, 110 singles.
Ouais, il y en a beaucoup
des singles de Bowie, je crois, dans toute sa carrière.
A priori, enfin, pour plein de raisons. C'est une collection qui te permet. Ce qu'il veut dans cette collection, c'est qu'il y a un regard personnel dessus. Donc, parce que déjà, c'est une chanson qui me parle à moi, parce qu'elle évoque des choses pour moi. Et puis parce que dans l'itinéraire de Bowie, elle est quand même extrêmement importante, quoi. C'est le dernier single avant que Let's Dance fasse de lui une espèce de superstar. Et donc c'est le dernier single. Et c'est un single qui arrive en 1900, qui sort en 80, qui est vraiment à l'angle de la fin des années 70, de la fin du punk et du début de la new wave. Donc c'est vraiment un single très important avec un clip qui était révolutionnaire pour l'époque. Voilà, donc il y avait beaucoup de choses à dire. Au départ, je pensais être plus personnel dans le récit, et puis plus je me suis immergé dans les recherches pour le autour de la chanson, plus c'était, il y avait de la matière. Donc et comme la collection on est limité à un nombre de signes, voilà, j'ai fait des choix.
Et alors ça reste quand même assez personnel, parce que le début du livre est assez autobiographique, comme tout est écrit d'ailleurs, comme tu écris sur Daniel Darc, c'était aussi très personnel, ouais, et très intime. Donc là on peut avoir un aperçu de ton enfance, de ta jeunesse. Alors à l'origine t'es parisien, mais il se trouve que tes parents très tôt partent au fond de la France.
Ils sont en train de partir dans la région centre. Ils avaient une petite société d'électricité et voilà, ils ont perdu leur. C'était les années fin des années 60. Ils n'avaient pas fait attention. Je crois que c'est une histoire de nom, société en nom personnel. Donc voilà, on leur a piqué leur pavillon, enfin tout ça. Donc voilà, ils sont partis comme beaucoup de gens dans une autre région qui est moins chère. Mon père qui était dans le bâtiment a construit lui-même la maison. Et puis, il se trouve que c'était dans un hameau, donc c'était. J'explique, le jet lag a été brutal, quoi,
parce que tu dis, t'as découvert l'ennui et la mélancolie.
Ah ouais, c'est sûr, ouais, c'est certain.
Oh, d'accord.
Bah ouais, parce que tu passes de. On était donc dans le 20e, puis ensuite vers la Porte des Lilas, et puis tu te retrouves dans un endroit où il y a deux maisons, une ferme et pas de moyens de transport, quoi. Donc voilà, et puis après t'as le collège. Où c'était très compliqué pour moi, parce que c'était l'époque, t'arrivais de Paris, t'étais un peu montré du doigt, quoi. Voilà, donc,
alors quand même, déjà soucis, tu te démarques un peu et tu essayes de sortir de cet ennui par la musique, parce que j'ai lu dans le livre que tu organises des booms, enfin des après-midi dansants, comme on disait à l'époque. Donc tu étais déjà DJ.
C'était un peu une combine pour gagner un peu d'argent. On faisait des parce que voilà, c'était des collèges très isolés, donc il se trouve que il y avait pas de matériel comme aujourd'hui, de sono, etc. Avec nous, avec deux potes, j'avais pas beaucoup d'amis, mais j'en avais deux qui eux avaient des sonos plutôt performantes. Donc on s'est dit on va monter des après-midi boom. Et donc c'est comme ça d'ailleurs que j'ai ce fichu disque de Bowie, je l'ai retrouvé parmi mes disques, parce qu'en fait à l'époque j'avais mis mon nom, etc., parce que dans les booms il fallait mettre ton nom pour pas te faire piquer. Et donc voilà, je me suis rendu compte que mon disque avait fait le avait passé plus de 30-40 années sans que je le perde, ce qui est quand même un miracle parce que j'en ai paumé des disques. Donc voilà. Et donc voilà, on faisait des booms autour de ça, mais c'était pas très, enfin, c'était pas un truc que j'adorais, quoi. Enfin, voilà.
Ouais, et tu dis qu'il y avait quand même aussi pas mal de violence, il y avait des bandes, ouais. du harcèlement.
Moi j'étais.
Tu as dû prendre des coups et en donner quelques-uns.
Ouais, quand t'es le Parisien, voilà, t'es un peu isolé. Et puis en plus, si t'as le malheur de pas être dans le moule, c'était compliqué. Ouais. Ouais, c'est raconté un peu dans le livre. Mais bon, après, c'était. Ça devait être comme ça, voilà, c'est tout. C'est vrai que c'était pas très marrant parce que c'était surtout le fait que t'es rien, quoi, que t'es accès à pas grand chose, quoi, mm-hmm. tu vois, ça c'était très très déprimant.
Et alors, comme
quoi.
Beaucoup à cette époque-là, t'as été sauvé par le rock en quelque
ouais, ouais, ça a été la fenêtre manière. sur beaucoup.
Ça a été Elvis,
ouais.
d'abord,
bah ouais,
la grande révélation.
Ouais, 10 ans, ouais, ouais.
Ouais, 10 ans.
10 ans et demi, ouais, ouais. 11 ans, ouais, 10, 11 ans. C'était la mort de Presley, et puis au début, bah, forcément, t'es très fan, donc t'es centré autour de cet artiste, et puis finalement. Tu grandis un peu et puis ça t'ouvre sur plein d'autres choses, quoi. Et donc, ouais. c'est comme ça que ça m'a ouvert sur d'autres choses. Et puis, en plus, il se trouve que la chance qu'on a eue, c'est que c'était l'explosion un peu de la musique rock qui arrivait enfin un peu à la télé. Il n'y avait pas tant d'émissions que ça, mais il y en avait quelques-unes quand ouais. même.
Bah, il y avait très peu de chaînes, donc il y avait très peu d'émissions.
Il y avait 3 chaînes.
Pas beaucoup de radios.
Ouais,
voilà.
Alors, les radios, c'est ça. Et puis, en plus, il n'y avait que les grandes ondes à l'époque. Mm-hmm. Mais par contre...
C'était avant les radios libres, hein, avant
ouais,
FM.
Mais Europe 1, toutes les radios, c'est un effort autour de la musique, parce qu'il se passait quelque chose, même en France. C'est l'époque de Bachung, justement, de Taxi Girl, de Téléphone, mm-hmm. de Trust. Donc, il y avait des émissions à partir de 22h. Il y avait, alors, RTL, c'était plutôt le rock américain. Mm-hmm. Europe 1, il y avait Françoise Rivière, il y avait Manval aussi, qui était génial. Mm-hmm. C'était plutôt le rock le branché, londonien, français, etc. Et puis, tu avais Richard Lenoir et Blanc Francard sur France Inter. Ouais.
Puis De Cône qui arrive à la télé.
Bon, il y a De Cône avec Chorus, qui était, voilà. ça, c'était super important.
Et puis, les enfants du rock vont arriver. Là,
après.
Bon,
ça passe, mais ça, c'est après.
Oui, c'est après.
C'est vraiment après.
Et donc Elvis te sauve, hein, comme beaucoup de gens. Enfin, Lou Reed a été sauvé par le rock'n'roll. Beaucoup de gens ont dit qu'ils avaient été sauvés par le rock'n'roll. Donc à croire que c'est une musique de rédemption, une musique qui sauve, qui rachète, en tout cas qui libère d'une certaine manière. Donc très vite, c'est Springsteen, les Clash. Et donc Bowie, il arrive comment là-dedans? À quel moment? Tu te rappelles ton premier souvenir de Bowie?
Ce que j'explique dans le bouquin, le premier souvenir, finalement, c'est déjà même enfant, parce que. Mais j'écoute pas, hein. Mais Bowie, parce qu'on y passait souvent en télé, quoi. Enfin, quand il venait en France, il allait chez Mourouzi, il allait chez Drucker, etc. Et donc, moi, j'ai eu toujours le sentiment de le voir passer. Et c'était un peu étrange. Enfin, je me posais plein de questions parce qu'il était reçu un peu comme une star. Mm-hmm. Et donc, il y avait tout un truc autour de ce mec qui était un peu mystérieux.
Oui, puis en physique.
Et puis il y avait une espèce de physique, etc. Il avait fait un film, je comprenais pas très bien ce que c'était. À 73, j'étais vraiment pas vieux, quoi. Et puis il y a eu Ashes to Ashes, qui a été la première, vraiment, c'était le premier vrai morceau de Bowie que j'ai écouté, quoi. Enfin, je pense, presque sûr. Et puis autour de ça, il y a eu, alors c'était un tout petit peu après, mais ça a compté, il y a eu sa participation à Christian F. Le film, et ça l'incrustait dans un univers vraiment underground, quoi, ce film, parce que c'était un film d'ailleurs berlinois, etc. Donc, en plus, il avait vécu à Berlin. Mm-hmm. Et puis moi, à l'époque, je commençais à lire rock'n'folk et tout ça, donc j'essayais de recoller les morceaux pour comprendre son itinéraire. Et c'est vrai qu'Ashes to Ashes, et puis l'album qui a suivi, a eu droit à. Voilà, c'était un album qui était. C'était pas du tout comme Let's Dance, quoi. C'était un album où il était. Et c'était son 11e album de rang important, quoi. Enfin, voilà.
Et donc tu dis que ça ouvre les années 80, d'une certaine manière. Hein, tu dis une des périodes les plus profuses, les plus éclectiques, les plus excitantes de toute l'histoire de la musique populaire. Alors tu cites la New Wave qui arrive, le hard rock, le punk, le reggae, le ska, la Britpop, la musique indie. Bon. Effectivement, moi je n'avais pas souvenir là, parce que souvent pour les grands passionnés de musique et pour notamment nos aînés ou nos grands frères, les années 60 et 70 avaient été bénies, et pour eux, les années 80, c'était le purgatoire.
Ouais, mais moi je divise vraiment ça en deux, quoi. Pour moi, entre 79 et 82, 83, c'était vraiment excitant. Quoi.
Voilà.
Vraiment. Et après, ça rebascule.
Après, ça se referme, c'est terrible.
Il se trouve que Jackson fait un carton avec son. Il y a une espèce de starification qui arrive. Et puis, je pense aussi que l'industrie du disque a été un peu dépassée par l'émergence d'un tas de petits labels, etc. Et puis, ils reprennent le contrôle, quoi.
Donc,
tu vois, rien qu'en France, tous les groupes ont voulu à un moment donné monter leur propre label. Il y avait Virgin qui était excitant, et puis en fait, ça devient des superstructures. Et pour moi, la rupture, c'est le live-aid, quoi. Le live-aid, c'est le moment
où... Tu dis c'est l'enterrement en première classe du rock.
Ouais, ouais, en direct à la télé et tout ça. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est d'une tristesse, le live-aid. C'est tous les groupes qui sont passés au live-aid ont retrouvé... des niveaux de vente qu'ils n'avaient jamais eu avant, tout sauf un d'ailleurs, sauf le mec que j'aime le plus, Adamant, qui est le seul qui a vu ses ventes baisser après le live-aid.
Ouais.
Mais le pauvre, il s'est retrouvé avec un seul morceau, à avoir le droit de faire qu'un seul titre. Et en fait, le live-aid, ça a été, c'était vraiment la grand-messe de la starification, de l'ultra-médiatisation, mais finalement, qui allait concerner quoi, une vingtaine d'artistes, une trentaine d'artistes.
Ouais, alors, il faut le rappeler, c'est les années, bon, c'est Madonna, Prince, Madonna, Michael Jackson, c'est MTV, donc c'est
des... même Springsteen qui se retrouve hyper médiatisé, Bowie qui se retrouve pris là-dedans. Voilà, c'est le retour de Queen, on pensait s'en être débarrassé.
Bah, c'est surtout des individualités, très peu de groupes en fait, c'est surtout des noms singuliers, hein. C'est surtout des stars, des personnes.
C'est moins que
notre jeunesse où on s'identifiait à des groupes comme les Rolling Stones, les Beatles ou le Velvet ou des choses comme ça.
Volonté de mettre sur
c'est des seules personnes. Donc même Jagger va faire des albums solo, absolument inaudibles.
À peu près tous.
Voilà, Freddie Mercury va quitter Queen pour faire un album solo, ce qui ne marchera pas du tout. Donc effectivement, tous sont tentés par l'aventure individualiste parce que c'est des années de fric.
C'est aussi la confusion entre c'était un artiste de talent. Si tu signes un contrat qui vaut des millions, quoi.
Enfin,
tu vois,
c'est ça, oui.
Michael Jackson est devenu star quand il a signé avec Coca-Cola, quoi. C'est quand même un truc démon.
Ouais.
C'est un mec qui a dû faire 3 albums dans sa vie. Moi, j'adore Billie Jean, hein, mais après, je trouve que c'est un peu Prince, c'était un vrai musicien, mais voilà, quoi. Et il y avait tout un truc, mais ça a vraiment basculé à ce moment-là, quoi. Effectivement.
Parce que la plupart des inventions, quand tu dis cette folle ouverture en 79-82, c'est quand même des choses qui ont été trouvées dans les années 70, découvertes dans les années 70. Développé dans les années 70, puis on voit Joy Division, en 80 c'est mort,
c'est
ça se prépare avant.
C'est pour ça que je te dis 70 plutôt, moi je fais plutôt 79, pour pas prendre 77 qui est vraiment le moment punk, mais en parallèle du punk arrivent les claviers, quoi. Et donc voilà, et les claviers, ça a été une vraie réussite au départ, et puis après c'est devenu une plaie, quoi, dans la musique rock. Les claviers, les synthés d'ailleurs, les synthés surtout.
Il y a Springsteen qui dit, quand j'ai ramené un synthé dans le groupe, on m'a regardé comme si j'avais tué un enfant. Et il s'y est mis, il a fait des tubes énormes avec son clavier. Hein.
Oui, puis c'est des morceaux ce qu'il fait seul avec ses claviers, je trouve ça fabuleux.
Non, ces grands tubes Born in the USA, ouais, tout ça, il y a du clavier derrière.
Je trouve que la production de Born in the USA, c'est un de ses albums qui a le moins bien vieilli, quoi.
Ouais, c'est clair.
Ça a vraiment... Et puis il y a beaucoup à dire d'ailleurs sur Springsteen, son rapport même. Parce que c'est l'époque aussi où arrivent les vidéoclips. Le CD, le vidéoclip dans l'ordre, et le CD, quoi. Et qui vont vraiment changer beaucoup de choses. Le vidéoclip, au départ, c'est un. Bowie est excité par ça, parce que c'est vraiment un média qui permet de. Pour lui, qui avait toujours une espèce de. Il envisageait les choses sous un angle artistique, donc ça lui permettait de développer ça, et puis c'est devenu vraiment un truc commercial très très vite. Et d'ailleurs, lui s'est désintéressé du clip à partir de 83, quoi, après China Girl, quoi. Il abandonne complètement, il va reprendre, ça le réintéressera à nouveau dans les années 90, quoi. Mais il a vraiment eu de 60, en fait, c'est un des premiers à avoir fait des clips. Il a fait des Lodger, il y en a, hein. Il y a des clips, il y a 3 clips sur Lodger.
Heroes,
il y a un clip, mais c'est plutôt un plan fixe. Mais c'est vrai que Be My Wife, c'est un clip. Enfin, voilà, quoi. Il y a des. Il a très tôt utilisé ce média et il s'en est lassé assez vite.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors, ce fameux clip qui a marqué tout le monde, en tout cas tous les gens de notre génération, on l'a tous vu et on a pris ça comme une claque, surtout qu'on n'était pas très âgés. C'est un clip assez révolutionnaire. C'est un des premiers clips qui a coûté très cher. À l'époque, on parle de 250 000 livres. Bon, en tout cas, même si c'est vrai ou c'est pas vrai, en tout cas, c'est très cher. Le budget est énorme. 3 jours de tournage, enfin, c'est assez rare. Et alors, tu peux nous parler un peu de ce clip, parce qu'il a de si particulier, pour ceux qui ne l'auraient pas vu.
Alors, c'est un amalgame de plus. Ça a été d'ailleurs assez drôle d'aller rechercher la façon dont ce clip a été fait, parce que ça a été fait vraiment un peu à l'arrache, hein, malgré tout. Il n'existe aucune note de service, aucun truc de facturation. C'est très compliqué à remettre les éléments là-dessus, parce que ça a été fait vraiment comme ça. C'est un clip qui est en 3 parties. Il y a une partie qui a été tournée sur les plages londoniennes, sur les plages anglaises, avec Bowie en clown. Et puis, tu as 2 autres parties, une partie d'un Bowie en camisole et dans un vaisseau spatial où il est connecté une espèce de vaisseau organique, quoi. Voilà. Et donc c'est une espèce, il n'y a pas d'histoire vraiment, mais c'est une espèce d'association d'images de, un peu cauchemardesque, etc.
Ouais, c'est pas du tout narratif, c'est plutôt des scènes oniriques. C'est très onirique comme
ouais,
univers.
Ouais, c'est très, ça passe par autre chose. Mmh. Alors c'est d'après un storyboard de Bowie qui avait storyboardé les choses. Mais alors voilà, quand tu vas rechercher les éléments, tu te rends compte qu'ils ont utilisé pour toute la partie camisole, etc. C'est des choses que Bowie avait tournées 6 mois plus tôt pour une émission sur une des chaînes anglaises, pour une émission de musique de Vince Everett, je crois, Kenneth Everett, qui était une espèce de trublion entre De Caunes et Coluche, quoi, voilà, qui faisait des émissions complètement décalées. Et donc ils avaient fait fictionner Space Oddity, dont c'était le 10e anniversaire en 79. Et comme en plus, Ashes to Ashes est une espèce de réponse à Space Oddity. Donc, et ils ont été recherchés, ils ont retourné les plans qu'ils avaient tournés pour cette émission. Et ils les ont amalgamés à Ashes to Ashes. Voilà. Et puis, il avait engagé le réalisateur donc, des émissions d'Everett, qui s'appelle David Mallette, qui après est devenu le mec qui a fait une dizaine de clips pour Bowie. Mmh. Mais donc c'est assez curieux d'ailleurs de lire les interviews de Mallette quand Bowie était vivant et ce qu'il dit aujourd'hui, quoi. Il y a un peu une différence où il s'attribue maintenant beaucoup plus qu'avant la réalisation du clip, alors que Bowie a dit, quand le clip a été fait, il a dit que c'était son clip et que c'était sa première vraie réalisation.
C'est après la mort des gens, c'est toujours pareil, c'est des disputes pour l'héritage, on se bat pour avoir la meilleure part.
Voilà, ouais. Voilà. Et donc je raconte ça aussi dans le bouquin parce que je trouve que c'est intéressant. Il y a lui et les deux mecs qui ont participé à la pochette des disques, qui réécrivent un peu l'histoire et qui n'ont pas les mêmes versions, enfin, qui ont fait des trucs, notamment le graphiste de l'album qui a fait quelques polaroïdes de Bowie, puis qui a fait des toiles après en mettant Bowie en icône, Bowie, etc. Mais il a fait ça à partir de 2016, quoi. Mmh. Et il les a vendus dernièrement, donc voilà, quoi.
Bon, c'est bonne guerre, hein, c'est des choses auxquelles on peut s'attendre.
Ouais, c'est un peu, puis il a fait un bouquin, Mallette, c'est un peu pareil. Maintenant, il dit oui, Bowie, finalement, il a amené 2-3 idées, quoi. Alors qu'en fait, on a le storyboard du truc, parce qu'on a retrouvé dans le
carnet. Oui, à cette époque-là, de toute façon, Bowie est très attiré par le visuel, ça a toujours été très important pour lui, l'aspect, que ce soit les costumes, les déguisements, la mise en scène, même sa scénographie. En public, quand il joue, enfin, tout est très travaillé, tout est très visuel aussi, c'est pas seulement musical, donc c'est un ensemble. Et donc à ce moment-là, ce que tu dis, c'est qu'il est au moment de Ashes to Ashes, il est très impliqué dans ce processus de création vidéo. Donc tu le précises, c'est bien de le dire, c'est en vidéo, c'est pas en 16 mm,
c'est pas
la pellicule.
C'est ça qui est fascinant, c'est que ils ont gardé, enfin, ils ont tourné en vidéo, et je trouve que ça donne une patine au truc,
tout à fait,
vraiment très différent. C'est vraiment la vidéo clip.
Que des gens de maintenant reprennent cette imagerie un peu vidéo. Un peu crade, un peu baveuse et tout.
Elle bave les couleurs qui bavent, avec des effets spéciaux faits sur la caméra elle-même, cheap.
Ouais.
D'ailleurs, Mallette dit qu'il les a trouvés sur place, ce qui est faux. C'est qu'en fait, il les avait trouvés un an plus tôt pour les émissions. Mm-hmm. Et on a les images. Donc, il avait déjà inversé. En fait, c'est une inversion des couleurs. C'est-à-dire qu'il parvient à rendre le ciel noir.
Ouais.
Et il inverse les couleurs, il fait un ciel très, très noir. Et ce qui donne un effet vraiment. C'est vraiment bien.
Comme en négatif.
Le clip, on le connaît. De toute façon, il est sur YouTube, si les gens peuvent le voir, mais c'est vraiment un clip. Alors, à l'époque, c'était stupéfiant, quoi. À l'époque, c'était stupéfiant, on n'avait jamais vu ça. Maintenant, je pense qu'il a plutôt bien vieilli et qu'il reste vraiment les images du clown qui marche avec cette vieille femme à côté. Moi, c'est un truc.
Et le bulldozer derrière, c'est assez terrifiant.
Ouais, pour moi, c'est comme un cauchemar. Quoi. C'est Eraserhead.
C'est ça, mais il y a un côté cauchemardesque, on dirait, comme je disais.
Le clown qui se noie, enfin, bon, bref, quoi.
Et donc oui, c'est un clip qui a... Bon, alors il faut savoir que le morceau, contre toute attente, a très bien marché. Il est numéro 1 en Angleterre.
Sauf aux États-Unis, il n'a pas marché du tout.
Oui, c'était trop strange, c'est ça qui est drôle, trop bizarre.
Ça n'a jamais été un hit aux États-Unis. Et pourtant, il ne le défend qu'une fois, ce morceau, sur une télé américaine. Quoi. Mais ça a été un immense hit en Europe.
En Europe et en Angleterre, numéro 1. Et puis ça a marqué durablement à la fois la vidéo et la musique.
Bah, surtout, moi, ce qui m'a fasciné là-dedans, c'est cette espèce de clown, quoi. C'est que le clown, finalement, c'est un costume qu'il porte de jour. Il le porte le jour du shooting pour la pochette, et il le reporte le jour du tournage du clip. Il porte ça 2 jours, et c'est toujours là dans l'imagerie.
Est-ce que tu crois que il voulait signifier que dans le grand cirque rock'n'roll, lui, c'était le clown blanc, ou en tout cas le monsieur loyal? qu'il n'était pas dupe, il était le clown qui rigolait pas.
Ouais, il y a un peu. Alors c'est pas un Pierrot d'ailleurs, c'est un clown blanc.
Ouais, tu précises bien.
Ouais. On fait la distinction parce que c'est pas. J'étais un peu recherché là-dessus, j'en parle un peu dans le livre parce que. Et lui-même Bowie fera la distinction. J'ai retrouvé ces images à Paris où on l'interpelle là-dessus et il dit non, c'est pas un Pierrot, it's not a Pierrot, it's a clown. Voilà. Et parce que c'est pas du tout la même figure. Le Pierrot est plutôt. Il a joué les Pierrot d'ailleurs dans. Enfin, non, il n'a pas joué les Pierrot d'ailleurs. Il a joué dans la pièce de Lindsay Camp pour la BBC. Lui, il faisait Cloud. C'est Lindsay Camp qui faisait Pierrot. Pierrot, c'est un peu aussi un truqueur, etc. Le clown blanc, c'est quelqu'un d'hiératique, qui est assez digne, etc. Enfin, ça n'a rien à voir avec le personnage du Pierrot. Et quant au fait de ne pas se prendre au sérieux, il y a une anecdote qui est maintenant assez connue, c'est que pendant le tournage du clip. Donc ils font tout le fameux passage avec le bulldozer qui suit le clown et sa secte, une espèce de secte new romantique. Et en fait, le plan était parfait et un mec est rentré dans le champ avec son chien, un vieux bonhomme avec son
un
chien.
Un berger, non, je crois.
Qui a échappé au contrôle. Et donc Mallette a dû arrêter le tournage, il était furieux. Bon, il va s'asseoir, il prend une coupe de thé. Et le réalisateur furieux interpelle le vieux monsieur et lui dit mais vous savez au moins qui c'est ce... Et le type lui répond ouais, je sais, c'est juste un connard dans un habit de clown. Et Bowie a toujours dit j'ai trouvé que c'était la meilleure définition de moi. Quoi. Donc il a toujours pris ça. Mais moi, ce que je trouve plutôt fascinant, c'est que. Ziggy, c'est toujours dans la conscience collective, enfin dans la culture. Et dans... mais Ziggy, c'est 18 mois de tournée, c'est des disques, etc. La Linsen, c'est un peu pareil. Hein. Là, le clown blanc, c'est 2 jours. Quoi. C'est 2 jours et une promo pendant un mois et demi. La promo dans les magazines anglais avec. Ils utilisaient plein de photos de clowns. Mmh. Tu avais des timbres, tu pouvais récupérer. Et puis, une fois que l'album est sorti, c'était terminé.
Il n'y a pas eu de tournée.
Il n'y a plus de clown blanc, il n'y a pas de tournée, il n'y a rien. Ouais. Quand il a fait le Carlson Show, il est en James Dean, Fureur de Vivre. Il balaie complètement ça. Et en 2005, quand il fait la pub pour Evian, parmi les incarnations de Bowie, tu as le clown. Quoi. Le clown qui est resté. Alors que, par exemple, son personnage de. Dans Blue Jean, il avait créé un autre avatar qui était Lord Byron, Serge Byron. Plus personne. Alors que le maquillage est fabuleux d'ailleurs, là-dessus. Plus personne s'en souvient quoi.
Eh ben alors on va l'écouter justement ce morceau quand même parce que ça rappelle pour personne qui le connaîtra pas, ça m'étonnerait parce que je pense que tout le monde a déjà entendu ce morceau au moins une fois dans sa vie et en tout cas ça a été un hit à son époque.
Thank you.
On est toujours sur Aligre FM 93.1. Merci Yves. On est avec Marc Dufaux pour parler de son livre sur Bowie, Ashes to Ashes, dont on vient d'entendre le morceau. Il faut savoir que c'est un morceau qui est très riche en images, on en apparaît par rapport au clip, mais aussi très riche en signification, avec plein de, on va dire, de double sens, de contrepoint, en tout cas de l'équivoque, beaucoup d'équivoque. Tu peux nous parler un peu des paroles, qu'est-ce que ça raconte exactement?
Il a amalgamé un peu, je trouve qu'il procède un peu dans les paroles, un peu comme il va procéder dans les images, c'est-à-dire qu'il n'y a pas très compliqué de dire qu'il y a un sens à cette chanson. Alors, depuis longtemps, mais on en fait forcément la réponse à Space Oddity. Parce qu'il est question à nouveau du Major Tom, c'est Major Tom qui donne de ses nouvelles, c'est-à-dire mm-hmm. qu'il est encore dans l'espace, il est complètement défoncé.
Ouais, et c'est un junkie.
Moi, autant je me souvienne à l'époque quand le single est sorti, c'était pas. On ne parlait pas tant ça, ce rapport avec Space Oddity, parce que je pense qu'il n'était pas question de rappeler que Bowie avait... En plus, je pense que c'était délibéré, il n'était pas trop question de rappeler que Bowie avait plus de 10 ans de carrière derrière lui, qu'il avait appartenu aux années 70, quoi, puisqu'il il arrivait à se réinventer continuellement.
Ah,
quoi.
Oui.
Et donc ce rapprochement-là, il a été fait bien, bien après. Et donc voilà, ça raconte cette espèce de volonté du Major Tom d'essayer de rentrer sur Terre, mais a priori personne n'a tellement envie de le voir, puisque au début de la chanson on dit oh non, c'est pas possible, pas à nouveau lui, quoi. Et donc voilà, et puis Bowie écrit comme ça des alors c'est assez cryptique, hein, quand même, hein, il faut pas chercher un sens très précis, par exemple Ashes to Ashes, la cendre à la cendre. Donc ça, c'est dans le livre des... C'est pas dans la Bible, d'ailleurs. C'est dans le livre des prières anglais pour les morts. Mais il pose ces paroles-là comme ça. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de continuité là-dessus. Quoi, voilà. Funk to funky, c'est très... Enfin, c'est, mm-hmm. J'ai cherché vraiment partout un sens précis à ça. C'est vraiment une trouvaille de sa part. Quoi. C'est pas très clair à décrypter. Par contre, il y a l'utilisation aussi beaucoup de, et ça a commencé à revenir à la mode à l'époque, des comptines anglaises.
Oui, ça, tu en parles bien.
Travestir les comptines anglaises. Mm-hmm. Voilà, je me suis un peu attardé là-dessus parce que c'était pas le seul. D'ailleurs, il y avait Siouxsie qui avait fait des choses là-dessus. C'était My House, je crois, ou je sais plus le titre de la chanson. Iggy Pop, dans son album Soldier, qui est de la même année. Loco Mosquito, ça commence par la comptine When I Was Buddy, My Mother Told Me. Et donc, et voilà, les comptines avec My Mother Told Me, il y en a des tas en Angleterre. Et donc, Bowie utilise ça pour Peter Gabriel aussi, je crois, a beaucoup utilisé les comptines au début des années 80 pour faire passer des choses.
Est-ce que c'est pas voilà. un peu ça la pop musique?
Bah si, moi je trouve que c'est parfait.
De faire passer, ce sont des comptines pour adolescents ou pour adultes.
Mais oui, c'est... puis il reprend une comptine pour le coup qui est une comptine un peu spécieuse parce que c'est. Ma mère m'a toujours dit qu'il fallait pas aller jouer avec les gitons derrière le bois, quoi. Enfin, tu vois. Et donc lui il reprend la comptine et You Bello Don't Mess with the Major Tom, tu ferais mieux.
Aligre FM 93.1.
Est-ce qu'il parle aussi un peu de lui-même, bien sûr, dans ce morceau, dans le sens où on pourrait interpréter que le Major Tom, bon, c'est lui, ah qu'il oui, a été mis en orbite par Space Oddity 10 ans auparavant, qu'il est parti très haut, très loin, et qu'il est devenu junkie, et qu'il aimerait bien revenir sur Terre, mais qu'il n'est pas sûr de pouvoir y parvenir.
Il y a forcément une translation là-dessus, mais ce ne sera jamais direct. Et d'ailleurs, il ne le fera jamais, il le dira. Il dira, voilà, oui, peut-être un peu. Mais oui, forcément. Mais il y a... En fait, on a les paroles manuscrites de cette chanson dans une des versions les plus abouties. Mais, et il y a encore des ratures, il change encore des mots, etc. Et vraiment, tu as l'impression qu'il procède un peu... Bah, de toute façon, il était fasciné par le cut-up de Bellows. Alors, il ne travaille plus comme ça depuis longtemps, mais il procède quand même un peu par collage de choses qui font sens en soi et pris dans le reste. Donc, tu peux décortiquer, amalgamer. À la limite, ce serait intéressant de refaire un cut-up de Ashes to Ashes. C'est dommage que j'y pense que maintenant, parce que je l'aurais bien fait pour le truc. Voilà, il y a des allusions à la cabale, par exemple, de Little Green Wheels. C'est, à mon avis, quoi. C'est une allusion au char, à Merkaba d'Ézéchiel, du livre d'Ézéchiel, dans la cabale. Quoi. Mais c'est juste jeté là, comme ça. Quoi. Donc, voilà, et puis il y a Il y a aussi, c'est ce qui est bien chez Bowie, c'est un mélange de choses, voilà, entre une citation de la cabane, enfin, et puis des choses du langage très courant, quoi.
Voilà. Ouais, ouais. C'est comme le clip, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation personnelle,
ouais.
Et les paroles laissent beaucoup de place à l'imagination. Donc il y a pas, on n'est pas enfermé, on n'est pas prisonnier ou pris en otage par un sens.
Comme la musique également,
voilà. Sa musique même est hétéroclite, choses très différentes.
Ça amalgame un tas de choses et voilà. Ça forme un tout cohérent, mais
c'est une espèce de fusion alchimiste.
Pour moi, il conçoit les choses comme ça. Quête de la pierre philosophale à travers ça.
Ouais, voilà. Côté sorcier, évidemment, c'est un cliché, mais ça lui va bien. Bon, H.S.2H.E., c'est aussi les cendres, c'est aussi le phénix qui en est de ses cendres. On pourrait aussi penser à ça, parce que Bowie, c'est quelqu'un qui a été annoncé mort plusieurs fois, et puis qui est toujours revenu et qui est toujours apparu.
Enfin, Bowie, il n'y avait pas cette aura, je trouve, cette aura mortifère autour de lui. Il y avait... il y a eu à un moment donné, si, c'est vrai, dans les années, mais... Il n'est jamais apparu comme un survivant, quoi. Enfin, c'est pas comme Iggy Pop, quoi. Tu vois, moi, j'ai pas le sens.
Oui, pas autant qu'Iggy Pop, c'est sûr. Non, mais artistiquement, il a failli être enterré plusieurs fois.
Pas dans les années 70. Les 11 albums qui sortent, c'est
les chefs d'œuvre. Alors, tu dis en 10 ans, il sort 11 albums, effectivement, entre 69 et 81.
Enfin, t'aimes ou pas, c'est 11 albums qui ont marqué leur temps, quoi. Tous, et ça, c'est. J'ai aucun artiste. Je cherche, mais j'en vois pas beaucoup. Mmh. J'en vois aucun qui ait fait ça à ce point, quoi. C'est-à-dire que chaque album qui sort est un jalon de l'histoire du rock, quoi. Mmh. Enfin, l'histoire de la musique populaire, d'ailleurs, même. Et ça va se gâter après, hein, mais voilà, quoi. Mais par contre, ce qui est H.S.2H.E., c'est. Dans le livre, d'ailleurs, je recolle à ça, plutôt aux dernières années de Bowie. Je le mets. Voilà, pour moi, c'est comme. Ça devient. Avec le clip Lazarus, je trouve qu'il y a il y a une espèce de rapport entre... ça, c'est un truc très personnel, hein, mais entre les images de H.S.2H.E. et même le sens et Lazarus, la dernière chanson.
Ce à quoi je pensais quand je disais ça, c'est que si tu veux, pour les fans, quand il sort Let's Dance, les aficionados, c'est un truc inaudible, c'est un truc qu'on ne supporte pas, qu'on trouve trop commercial, trop racoleur. Ouais. Ensuite, il sort des albums qui ne tiennent pas vraiment la route.
Ah ben ça va être le fameux truc des années 80.
Ça va être une traversée du désert artistique, c'est là, dans ce sens-là où j'entends.
C'était réévalué, ça, parce que vraiment, il s'en est. Alors, j'ai pas eu. Forcément, ça ne traite pas de tout, mais les années 80, l'album qui suit la dizaine, c'est Tonight, c'est à mon avis. J'aime bien la pochette, mais en dehors de ça,
c'est une catastrophe.
C'est pire. C'est pire parce que celui d'après est quand même un peu meilleur.
Ouais.
Alors qu'il a été beaucoup plus décrié, d'ailleurs. Mm-hmm. Never Let Me Down. Quoi.
Ouais.
Mais à côté de ça, il y a quand même plein de choses qu'il fait à droite, à gauche. Alors, il y a aussi un renouvellement de la rock critique et c'est comme si on voulait se payer Bowie. Quoi. Parce que, en fait, ce qui a été très mal accepté, je pense, c'est qu'il venait de l'underground, etc. Et il y avait une forme le choix qu'il fait. Justement, de rejoindre cette hypermédiatisation et de statut superstar a été très très mal vécu par beaucoup de gens qui le suivaient depuis très longtemps.
Non, mais lui-même a fait son autocritique. Années Phil Collins.
Oui, mais enfin, il dit mes années Phil Collins, il dit mais en même temps, elles n'ont pas duré si longtemps que ça. Il compte qu'elles ont duré 4 ans.
Oui.
Donc, parce qu'il considère. Alors après, c'est une question de mesure. Après, ce n'est pas le seul. Hein. Tous les mecs des années 70 sont morflés dans les années 80.
Mais oui, bien sûr. Ça a été,
artistiquement, Dylan, ça a été. Mmh. Et Bowie, malgré tout, quand tu regardes maintenant. Alors, Blue Jean, c'est vraiment pas une mauvaise chanson. Après, l'album est pas bon, mais Love in the Alien, c'est une sublime chanson, quoi. Même Underground, le film Labyrinthe, qu'on comparait tout le temps à Dark Crystal, moi je trouve que c'est bien meilleur que Dark Crystal, quoi.
D'accord.
Bowie est génial dans ce film, mais il a eu droit à des critiques assassines à l'époque. C'était mais vraiment assassin, moi je me souviens. En plus, je faisais partie des gens qui ne l'aimaient pas trop, quoi. Donc j'étais. On n'arrêtait pas de dire que... Parce que l'époque où revient Iggy Pop, en plus c'est lui qui produit Blablabla, etc.
Oui.
Et en disant, quand même, Iggy, c'est bien mieux. Moi, je suis persuadé que tout ce qu'on va faire, notamment en France, autour de Brick by Brick, en disant quel album génial par rapport à Bowie, Enfin, ouais. Franchement, on réécoute Brick by Brick, ça casse pas beaucoup des briques. Hein, tu vois. Et c'était vraiment une façon d'enterrer Bowie. Quoi. Il y avait eu un renouvellement aussi des journalistes qui étaient, voilà, qui avaient envie de se... Oui, je te l'ai dit.
Bah oui, après, les années changent, les années 90 arrivent, donc on voit quand même Nirvana qui arrive, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, ouais, il y a le grunge. Machine, hein. Et il y a le grunge qui arrive, donc on a un peu soldé les années 80 à ce moment-là, parce qu'on s'est dit que c'est des années qui étaient en toc, des années de coke et d'argent et de synthé, ouais. Du plastique, ouais. Du CD, tout
parce
ça.
On retient surtout la fin des années.
Voilà, c'est ça. Non, mais je juge pas ce point de vue. Ouais. Je dis juste qu'on sait, voilà, on a soldé les années 80 assez rapidement. Et là, il fait effectivement. Moi, j'ai redécouvert Bowie à ce moment-là. C'est avec Teen Machine. Ouais. Le premier album pour moi est très bon. Il a une section rythmique de 89. Folie. C'est ah oui, tiens, avant, je te croyais 90. Ouais. 89. Donc, c'est les sections rythmiques, c'est les frères qui ont bossé pour Iggy Pop. Et puis, il a un Riffs Gabriel à la guitare qui fait des riffs fabuleux. Donc, pour moi, en tout cas, moi, j'ai vécu comme ça. Sa renaissance artistique à ce moment-là, c'était Teen Machine.
Après ça c'est un peu
le numéro 2 est pas bon, c'est pas bon.
Mais même là il s'est fait je me souviens des articles, il s'était fait démolir.
Ouais, il s'est fait démolir en France.
C'était un truc de bourgeois qui jouait les un bourgeois qui fait du garage rock, enfin un truc comme ça. C'était très violent ce qu'il prenait, puis en plus il, pour rien arranger, il s'était laissé pousser la moustache. C'était quand même un peu catastrophique. Et il avait eu la chance en fait, ce qu'il a un peu, il y a eu une machine, mais ça lui a fait un bien fou, lui.
C'est ça, ouais. Il a retrouvé le groupe de rock, quoi.
Ouais. Et par contre, ce qui lui a fait un bien fou aussi, c'est la sortie du coffret Sound & Vision et la tournée qu'il a fait en solo en 90, qui a été une tournée incroyable. Et il avait tenté des choses, voilà, de se renouveler avec des trucs de danse, etc. Mais il a toujours tenté des choses. Oui, c'est et l'image un petit peu guindée qu'il a eue, etc. C'était parce qu'il était il y avait une certaine arrogance dans son attitude qu'il a...
Oui, le côté dandy, un peu esthète.
Un peu sec.
Esthète, un peu distant, méprisant. Voilà,
et qu'il a un peu... qui va casser à partir de 99, quoi. Enfin, voilà.
Oui, là, il devient sympa. Il parle aux gens.
Il change de coupe de cheveux.
Ouais, et puis il est très chaleureux. Il pose des questions aux journalistes. Il s'intéresse aux gens. Alors,
c'est ce que je dis dans le bouquin.
Exactement.
Il y a un changement.
Tu en parles très bien de cette époque-là.
Moi, j'adore cette époque.
99-2004 aussi, voilà.
J'adore cette époque parce qu'il a fait un nombre de télé incroyable. Enfin, de télé.
Oui, c'est fou, j'ai
pas
réalisé quand tu sors l'homme de.
C'est énorme ce qu'il a fait, comme il était omniprésent, quoi.
Ouais, ouais.
Et en même temps, il était jamais à saturation, quoi. C'était. Et puis, même dans la. Il arrive avec des pulls en V, enfin, tu vois, très simple. Et,
moins sophistiqué,
et,
ouais.
Ouais, ouais. Et puis, en même. Bah, la coupe de cheveux, il fait beaucoup. Et il y a un album qui m'arrange là-dessus, c'est Aours, mais c'est complètement raté dans le graphisme. C'est Bowie avec les cheveux longs, mi-longs. Qui tient le vieux Bowie, enfin en plus il est en archange, enfin tout en blanc, qui tient l'ancien Bowie, cheveux carottes.
D'accord, ouais.
Et je trouve que c'est comme si, voilà, il avait signifié que voilà, ça c'était plus là, quoi.
Et c'est parce qu'on a beaucoup reproché à Bowie, ça il faut le dire, et ça revient encore ce reproche, c'est que ça a été un peu un vampire, c'est un voleur, un pilleur, c'est-à-dire qu'il a pris les mouvements d'avant-garde, il les a rendus grand public. Ouais. Alors il faut reconnaître que c'est un voleur honnête dans le sens où il cite toujours les sources et il dit ce qu'il a pris précisément chez les gens, et puis après il les fait travailler, il les enrichit, mais quand même on lui a reproché ça, c'est un peu opportuniste, moi je l'ai senti quand la Jungle est arrivée, c'était au moment que je suivais, que j'ai vécu en direct à la cordonnerie, au bateau phare. Vraiment, c'était un mouvement dans lequel j'étais. Et il sort Outside, c'est l'album avec Brian Eno. Non, c'est Hustling. Il sort Hustling qui est Jungle. Ouais. Et j'ai trouvé ça très opportuniste et raté. C'est que la greffe prend pas et c'est juste un arrangement sonore qui met derrière ces chansons. Et pour moi, c'est là que je vous ai senti, si tu veux, c'était un peu le vol, l'opportunisme.
Ouais, moi, j'aime pas trop. Enfin, si, il y a des chansons que j'aime bien dans Hustling, mais Outside, je trouve que c'est un album vachement intéressant.
Outside, c'est bien, mais
Non, mais
Brian Eno, pour moi, effectivement, c'est l'exception.
C'est très urbain aussi dans Outside.
Oui, mais c'est pas Jungle comme Hustling. Okay. Mais Outside, c'est un album qui est fabuleux avec Brian Eno. Ouais, ils ont fait un boulot ensemble qui est passionnant. Et puis, pour moi, c'est un peu le dernier bon album pour moi de David Bowie, mais bon, ça, c'est très personnel, on pourra en reparler. Et puis, qu'est-ce que tu penses de ce reproche-là de pilleur ou de voleur?
Ouais, pilleur, je trouve que c'est un peu gonflé, quoi. Mais qu'il est tenté de suivre, il a toujours tenté de rester dans le, mais est-ce qu'on peut lui reprocher ça? Enfin, il a une approche de la musique qui n'est pas si... Je pense qu'il l'a approchée. Et d'ailleurs, son Ziggy, c'était ça. C'était le théâtre du rock, quoi. C'était pas du rock. C'était, il a toujours une distance par rapport à ça. Donc, en fait, il a été chercher ce qu'il y avait à prendre dedans, etc. Bon, évidemment, il a écouté un peu de blues, mais par rapport aux Stones ou aux Beatles, qui étaient fascinés par les bluesmen, etc. Lui, il était plutôt fasciné par la comédie musicale et par Broadway, et par Anthony Newley, par... donc il a toujours vu ça avec Bertolt une espèce Brecht, de filtre, quoi, une filtre arty.
Voilà, il n'y a pas le cabaret anglais, tu...
Oui, bien sûr, non, mais je veux dire aussi...
Il connaît un peu dans ce cabaret anglais, parce qu'il vient de là, en fait.
Il vient de... Enfin, il était... il a fait un tas d'expériences comme ça avec des troupes, plutôt le mime et tout ça. Ouais. Il a été plutôt dans les
Il a commencé par là, oui.
Mais tu penses, le terme cabaret convient pas.
Bah pour Bowie, je le vois moins dans le cabaret. Ouais. Je l'ai vu, il a fait beaucoup. Et puis en plus, c'était des. Dans les années 60, il est d'un opéra. Il tente tout, quoi. C'est-à-dire qu'il fait il fait un trio avec une chanteuse et un guitariste. Il fait du mime. Il a une boulimie artistique et de réussir qui est très forte. Mm-hmm. Mais de toute façon, lui a dit que son itinéraire, c'était, il était passé d'un type ambitieux, prêt à tout, à un type bien, quoi. C'était l'évolution qu'il avait vue dans sa vie. Et je trouve que ça se sent dans sa façon d'être. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a évolué, effectivement, comme tu dis, s'intéresse aux gens, etc.
Oui, alors artistiquement, donc, ça donne pas toujours le meilleur, parce que c'est pas avec des bons sentiments qu'on fait des bons albums,
non,
forcément.
Mais enfin, Hilton, c'est quand même. Non, mais je parlais du
caractère. Oui.
Après, moi, je considère qu'il a fait des très bons albums dans les années 2000. Hein. Je trouve qu'Hilton, c'est un excellent disque. C'est vraiment. Mais c'est un reproche que je fais. Alors, ça, c'est.
Moi, j'arrive pas à l'écouter. Hein. J'ai essayé.
Moi, je trouve
pas.
Ça un sublime album. Quoi. Mais j'ai mis du temps à l'aimer, hein. J'ai mis beaucoup de temps, mais à force de l'écouter, je trouve qu'il y a vraiment... Après, ce que je reproche un peu aussi, c'est un peu le problème des gens qui ont des longues carrières, c'est quand les journalistes viennent les interviewer à la faveur d'un nouvel album, etc., ils parlent très très peu du travail en soi.
C'est-à-dire qu'ils s'adressent à la légende.
Ils s'adressent à la légende et on revient... Donc finalement, ces albums, c'est comme s'ils n'avaient aucune valeur. Enfin, c'était comme si ça n'existait. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il était bien dans son temps aussi, Hilton, tu vois. Et après, il y a les deux derniers qui ont fait l'unanimité, quoi. Mais ils ont bénéficié d'un un énorme coup de pub parce qu'il y avait eu 10 ans.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1.
Alors on est toujours avec Marc Dufaux dans l'émission de Yves Tanret, La vie est un roman, pour parler de son livre aux éditions du Boulon, Ashes to Ashes. C'est évidemment sur un des morceaux les plus célèbres de David Bowie. Et donc on évoque ensemble l'ensemble de sa carrière. À partir de ce morceau-là, on peut dérouler toute son histoire en amont et en aval. Et c'est quand même, malgré les réserves que j'ai pu émettre personnellement sur la fin de sa carrière, ça reste un artiste majeur, dont l'influence se mesure toujours. Et on va parler effectivement de ces deux derniers albums qui ont surpris tout le monde, parce que ça faisait 10 ans qu'il n'avait rien fait. Ouais. On n'entend donc plus. Il avait disparu, il a fait une crise cardiaque en 2004, je crois.
Ouais, c'est ça,
2004. Et puis, pendant 10 ans, il n'a rien fait du tout. On ne l'a même pas vu, peut-être dans un film ou deux. Ouais, Prestige, non, des choses comme ça.
Non, il a fait deux, trois
petits rôles.
Très peu, en fait. Un an après, il remonte, il vient faire une guest avec Arcade Fire.
Avec Pink Floyd, David Gilmour.
Il fait un truc avec Pink Floyd en 2005. Et puis, il fait un truc avec Ricky Gervais, très court. Ouais. Et puis, effectivement, il accepte de faire le rôle de Tesla avec Nolan. Voilà.
Ouais.
Mais, t'as raison, il
disparaît fait, complètement par rapport à son activité.
Mais alors, ce qui est fou, c'est que voilà, ce type qui était omniprésent pendant déjà toute sa carrière. En fait, tu prends chaque année de 69, de 70 à 2004. T'as pas une année où il n'y a pas un truc de Bowie, il n'y a pas un événement Bowie. C'est pas une année, ce qui est fou, et sans qu'il y ait saturation. Quoi.
Avec des grandes tournées, beaucoup de dates, des centaines de dates.
Ouais, des tournées, ou un album, ou un truc marquant, enfin quelque chose de... tu vois, Elephant Man, par exemple, au moment de la sortie d'Ashes to Ashes, ça a été un... On se souvient pas, mais ça a été un événement mondial. Enfin,
ouais, je m'en souviens,
on en parlait dans les journaux de TV, mais même en France.
Ouais, hein, tout à fait.
Qui jouait John Merrick dans Elephant Man aux États-Unis. C'était incroyable le nombre d'interviews qu'il a fait autour de ça. Enfin, bon. Et
ça allait bien avec son univers justement de Scary Monsters.
Et bien alors, ce qui est marrant, c'est que ça tombe au moment de Scary Monsters, mais que lui va il parlera plus du tout de l'album. Et d'ailleurs, même le clip suivant après Hachi Swashi, c'est Fashion, qui est une espèce de clip qui est complètement l'anti. L'anti-Hachi Swashi. C'est d'une simplicité. C'est Bowie qui fait un peu le con. Enfin, c'est très étonnant ce clip. Moi, j'aime beaucoup, mais enfin, je le trouve super étonnant. Et pour revenir sur la fin de sa carrière, c'est voilà. Ce qui est assez. Enfin, étrange, c'est qu'il va disparaître 10 ans, mais que ça va à peine se remarquer tellement il est omniprésent, quoi. J'ai mis dans le livre un extrait d'une critique de Rolling Stone quand il sort un album, quand il sort un live de la tournée 2004, où vraiment ils font pas attention qu'en fait ça fait 8 ans qu'il est plus là, quoi. Et en fait, les médias vont s'en rendre compte quand il va faire The Next Day. Ils vont se dire, merde, mais ça fait 10 ans, il avait... Et alors, surtout que The Next Day, il a été entouré d'un... Donc, il est arrivé... Il a eu l'intelligence de faire... de pas faire du tout de promo. C'est-à-dire que le disque est apparu comme ça. Dans les bacs. Et ça a été une surprise totale.
C'est ce qu'on appelle l'anti-marketing, qui était une chose qui a été utilisée et dont on a abusé aussi. C'est-à-dire que c'est quand même du marketing.
Décider de
pas communiquer, c'est encore de la communication.
Lui, il a tenu le projet secret. Ça a été dément.
Personne ne savait qu'il en
était. Surtout, c'est qu'il n'est pas revenu dessus. C'est-à-dire qu'il n'a fait aucune interview. Il a fait aucune télé. Je veux dire, il a balancé ses deux disques. Il a jamais. Il a disparu de la scène médiatique complètement. Alors qu'il était omniprésent avant.
Alors Black Star, c'est encore plus fort parce que il fait signer à tous ses musiciens des clauses de confidentialité donc interdit de dire qu'on enregistre pour Bowie, qu'il y a tel projet, machin. Donc ils ont tous tenu leur langue, ce qui est assez remarquable. De toute façon, à mon avis, ils risquaient le procès ou en tout cas de pas toucher leur argent.
Je pense qu'ils avaient
il y avait une amitié aussi, une grande admiration. On s'est toujours battu.
Ce qui est marrant, c'est que pour Black Star, The Next Day, les rumeurs autour de ça, c'est que Bowie est mourant, alors qu'il va très très bien.
À ce moment-là, oui.
Et que quand Black Star sort, personne ne se pose la question comment va Bowie, en fait, il est mourant.
Alors, ce qui est fou, c'est qu'il sort donc ce dernier album, Black Star, avec un morceau, pour le coup, vraiment fabuleux, qui est sublime, qui est Lazarus, qui est un morceau bouleversant. Sa voix sur cet album est incroyable, et là, c'est peut-être la première fois où j'entends vraiment sa voix nue, complètement nue, où toute pause a disparu. Parce que c'est la proximité de la mort qui le fait chanter comme ça, parce que là, il n'est plus question de poser ou de faire semblant ou même d'avoir des artifices. Donc là, sa voix a atteint un niveau de pureté qui est bouleversant.
C'est ce que dit Visconti.
Et ça s'entend. Et Visconti, quand il produit, il ne met quasiment pas d'effet sur la voix.
Il dit qu'il a mis aucun effet. Et que même les failles, il a voulu les laisser.
C'est les plus belles, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et alors, par contre, il sort cet album et 2 jours après, il meurt. C'est en fait qu'il a mis en scène jusqu'au bout. Il a voulu contrôler jusqu'au bout toute sa communication sa vie et toute son œuvre.
Et puis surtout, il fait rentrer la mort et l'art, une vraie confusion, et c'est pas un gimmick, etc. C'est-à-dire que le dernier clip, c'est un clip sur la mort, quoi, sur la fin. Et en même temps, c'est mortifère, et il dit qu'il n'a pas le secret, c'est-à-dire qu'il disparaît pas du tout dans un cercueil, mais c'est une armoire qui s'ouvre vers les ténèbres, mais l'inconnu, quoi. Et il y a tout un truc comme ça, tout est là, et en même temps, le clip est très énergique, parce qu'il revêt à nouveau son costume lunaire de ses beaux jours, et il se met à écrire comme un fanatique, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'épilepsie d'écriture, un besoin de créer, etc. Et tu as toujours cette espèce de gargouille qui est sous le lit, et c'est très épuré, mais c'est vraiment un clip... pour moi, c'est un des clips qui a mieux traduit ce qu'on pouvait éprouver dans les derniers jours. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre du vidéoclip, etc., dans ce truc. Alors que Black Star, le clip qu'il avait fait 3 mois plus tôt, est plutôt sa vision ésotérique. Il te laisse le testament ésotérique de tout ce qu'il a mis en place, etc. Et ça, c'est plutôt le truc intimiste, etc. Et puis basta. Basta, il veut pas qu'on parle de sa mort. Il va faire la nique à tous les journalistes, c'est-à-dire qu'ils sont tous devant chez lui en train de dire quand est-ce qu'on lieu les obsèques, etc. Ouais. Il est déjà incinéré. Il a pris une incinération rapide, un truc que normalement prennent les gens qui n'ont pas d'argent. Et personne ne saura où est son corps, personne ne saura où sont répandues ses cendres. Et il a dit qu'il ne voulait pas. Déjà, il voulait que ça appartienne à sa famille, ce moment-là. Et puis qu'il ne voulait pas qu'on parle de sa mort, que ça ne l'intéressait pas, mais qu'on parle de sa vie, ce qu'il avait été dans sa vie, et qu'il ne voulait pas une grande messe à la Elvis ou à la Michael Jackson, etc.
En fait, ce qu'il a toujours considéré, c'est que la création C'était peut-être la meilleure réponse à la mort. En tout cas, pour lui, c'était une
façon de
non, puis même d'atteindre une certaine forme de divin, parce que finalement, si Dieu a fait l'homme à son image, ça veut dire que l'homme est capable de créer lui aussi.
Oui, je pense qu'il y a
et
tout
par
ça.
La création, il peut se racheter ou en tout cas. Oui, surmonter la mort, en tout cas transcender la mort, ne serait-ce que dans l'œuvre.
Oui, là-dessus, mais moi, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est la façon dont il a voulu faire que cette espèce de sortie ne soit pas remarquable, quoi. Donc, que ce ne soit pas une pierre. Bon, en plus, il se trouve qu'il meurt pratiquement le jour de sa naissance, quoi. Mais,
oui, en plus.
Bon. Mais je pense qu'il n'avait pas envie que chaque année ou dans 10 ans, on sorte un album pour les 10 ans de sa mort, quoi. Tu vois, plutôt de sa vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment. En plus, on a très très peu de détails. Alors, non seulement on a très peu de détails, même les médecins, aucun n'a parlé, pratiquement aucun. Il n'y en a qu'un seul qui a raconté qu'il était formidable dans chaque hospitalisation. Et puis, on a très peu de détails, même sur les 10 dernières années de sa vie, quoi. C'est pas rien, 10 ans. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il a fait, quoi. Il a juste vécu pour lui.
On sait qu'il est revenu en Angleterre avec sa femme et sa fille.
Non, il est resté aux États-Unis. Oui, alors
il est revenu pour faire un dernier pèlerinage sur ses lieux.
À la fin. Oui,
ses lieux de naissance, ses lieux où il avait été à l'école.
Je veux dire, après son problème cardiaque, il a passé 10 ans. Jusqu'à The Next Day, pratiquement aucun paparazzi l'a emmerdé. Et puis c'est après The Next Day où on commence à le photographier dans les rues de New York, etc. Et lui ne parlera plus jamais à la presse. Ça, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait même pas, tu vois, qu'il y ait même pas un journaliste à qui il ait eu envie de dire quelque chose. Enfin, il en a fini avec ça. Et il n'en a pas fini avec la création, ce qui est plutôt bien, quoi.
Ouais.
Et voilà.
Merci beaucoup, Marc Dufaux, d'être venu nous parler de ton livre aux éditions du Boulon, Ashes to Ashes.
Dédicace à Gabriel, en passant.
Merci à Enrico Mastro Giovanni.
Merci à Lucas Pontu.
Et merci à toi, Yves, de nous avoir accueillis dans ton émission.
Et nous passons l'antenne à Cause Commune.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.